RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Il est là, en studio, incroyable, le maître Yodu. De retour de Londres. Salut Johan, comment ça va?
Hello Mr. Ben, how are you?
J'allais dire le pilier d'RMC Running, mais tu fais un peu ridicule avec l'invité qui est
à côté de l'invité, ouais. Physiquement, on voit les sports.
Vous n'avez pas pratiqué le même sport, quoi, c'est ça le truc.
Mais moi, à l'inverse de lui, je vais pas aller au rugby.
Non, c'est ça. Il n'y aura pas de transition, course à pied rugby, a priori.
Dans ce sens-là, ça marche.
Voilà. De retour de Londres, parce que tu as assisté au marathon de Londres.
Magnifique marathon. Hein.
On félicite notre ami Dorian Louvet, qui a encore fait 2h33 sur son magnifique défi Miles of Discovery.
Exact.
Les 7 marathons majeurs la même année.
Même pas fatigué de Boston, rien.
Voilà, on débriefera tout ça avec lui la semaine prochaine. On remercie toute la communauté pour le soutien sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur le Club RMC Running, sur Strava, sur TikTok aussi, Johan Durand est sur TikTok. Et oui, allez-y,
on y est tous,
allez le suivre. Et continuez de vous abonner sur les plateformes de téléchargement. Comme ça, vous pourrez avoir les épisodes d'RMC Running en avant-première. La thématique du jour va tous vous intéresser parce que pour la plupart d'entre nous, on vient de là. Le sport collectif, que ce soit le foot, le basket, le hand, on démarre forcément par ces sports avant de se retourner vers la course à pied. Donc on a convoqué deux ex-champions. Johan Hugé qui est avec nous en studio. Salut Johan.
Bonjour, ça va?
Ça va et toi?
Ça va.
62 sélections en équipe de France de rugby. Voilà, ouais. C'est pour ça que c'est pas le même gabarit.
Non.
Et c'est besoin de tous les gabarits.
Hein. Ah, c'est sûr,
et c'est pas le plus lourd des rugbymen non plus.
Il est assommé quoi. Sur un terrain de rugby, il aurait pas fait long feu.
Qui moi? Mais tu rigoles.
On a besoin de tout le monde.
Tu te serais fait attraper quoi, c'est fou. On a également Anthony Mounier qui est en direct avec nous depuis la Grèce. C'est là qu'il vit aujourd'hui. Ancien footballeur évidemment. La génération 87. Salut Anto.
Salut à tous, comment vous allez?
Bah super, merci d'être là, mais on va donc parler de cette transition. Johan, tu vas nous donner les clés pour y parvenir, les erreurs à éviter, ouais. Les adaptations à apporter, alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Et démarrons tout de suite par des félicitations, parce qu'hier, notre ami Anthony Mounier a bouclé un semi-marathon en Grèce chez lui, record perso 1h20, bravo Anto, hein. Là c'est un sacré chrono. Hein.
Magnifique.
Ouais, écoute, c'était l'objectif. Bon, secrètement, j'aurais aimé faire en dessous d'1h20, mais voilà, l'année dernière, j'avais commencé à courir en faisant cette course-là, en 1h26. Là, je suis en 1h20, donc c'est bien, je suis content.
1h20, ça fait 3,50 au kilo, c'est très solide, hein, Yodu.
Non, c'est solide. Il avait un RP 1,26, je crois. Donc, quand tu retranches de 6 minutes sur un semi, c'est costaud, ouais. Donc, moi, je l'avais vu à Séville, on était ensemble au marathon de Séville, faire moins de 3 heures. Et musculairement, il avait chargé sur la fin de parcours, il nous racontera. Mais là, faire 1h20 au semi, c'est un... C'est un step au-dessus. Hein.
Bien sûr.
Là, il peut viser des chronos aux alentours des 2h50 sur marathon, donc chapeau. Hein, c'est vrai.
Ça, ouais.
Parce que je le suis sur les réseaux et c'est vrai que même après, il a enchaîné les entraînements.
Il
est matrixé. Ouais.
On montrera ça tout à l'heure, évidemment.
Ça y est, je suis piqué au truc.
Et il y va à 6h et tout. Hein. C'est vraiment le mec piqué. Hein.
Nous, on a l'image des footballeurs feignants qui dorment et tout. Là, ça y est, on a basculé. Là. C'est
autre
chose. Ça y est, en tout cas.
Ouais, non, après, c'est vrai que c'est l'emploi du temps de la journée. J'aime bien commencer ma journée par le sport.
Ouais.
Et je sais qu'après, si je le fais pas tout de suite, et ben après, il y a plein de choses qui peuvent se greffer dans la journée. Et si je fais pas mon sport, je vais pas être un bon mood. Et c'est pas agréable pour tout le monde après à la maison. Donc, je préfère me lever tôt, faire mon sport. Et comme ça, après, c'est parti.
Johan, t'en es où dans ta pratique de la course à pied, toi? Donc, on l'a dit, longue carrière de rugbyman. Arrêt sur une blessure très dure, d'ailleurs, à digérer. Une rupture du tendon d'Achille. Donc, on imagine la douleur ressentie. Tu cours régulièrement aujourd'hui? Comment ça se passe, alors?
On essaie de faire 1 à 2 sorties par semaine. Mais après, comme t'as dit, on a eu quelques blessures. Donc, dès qu'on commence à rentrer, à taper, on sent pas mal de douleurs. Donc, que ce soit genou, dos. Non, mais c'est pas forcément lié au sport et à la pratique du rugby, mais on est encore un peu lourd. Pour ce sport-là, il faudrait que je perde 10 kilos, je pense, pour.
Ouais.
Mais c'est dur, hein, c'est dur de perdre. mais quand je le vois courir, Anthony, sur les réseaux, ça donne envie de faire de belles sorties comme ça. Mais pour moi, physiquement, ça me demande beaucoup d'efforts. Donc je fais des 10-15 régulièrement. Mais au-delà, ça me tape dans le dos, donc on évite.
Ton poids de forme de joueur, c'était quoi?
Là, comme là, 96.
Comme là, à 96 kilos.
Je n'ai pas bougé. Ouais. Je bouge pas. Donc avec l'été, on perd 1 ou 2 kilos forcément, ouais, parce qu'il fait chaud et on s'hydrate peut-être un peu moins. Ouais. Mais sinon, on est toujours aux alentours de entre 94 et 96.
Ça fera partie des clés, Johan, comment on s'adapte quand on a une morphologie comme ça assez imposante pour, pour l'exigence de la course à pied, parce que ce sont des sports complètement différents. Là, d'ailleurs, tu as fait le marathon pour tous, tu pourras nous le raconter, parce qu'on imagine le calme.
En plus, sur le bon exemple. Chaleur, en pleine chaleur.
Je suis pas le bon exemple.
Ouais. Non, mais il y a un vrai enjeu, parce que c'est vrai que même si tu adores la course à pied, il y a forcément une adaptation morphologique.
Quoi. Exactement, ouais. Il faut imaginer, c'est comme si c'était un gros 4x4 sur un circuit de Formule 1, tu vois, en termes de consommation, coût énergétique, quand il pose un appui au sol, c'est pas le même appui, c'est pas la même dépense qu'un Kenyan qui fait 55 kilos.
Hein. Ah oui.
C'est le double de gabarit. Donc, effectivement, c'est compliqué. Donc, c'est des défis à avoir. Mais après, voilà, quand t'aimes la course,
Vous maigrir.
Ouais, mais...
ouais. Non, mais est-ce que la musculation peut régler son problème, par exemple ?
Ça dépend de quel est le problème, parce que sa vraie problématique à lui, c'est de pas se blesser, c'est de pouvoir courir sans avoir de douleur, sans avoir ces contraintes parce qu'ils sont liés au choc et liés à son gabarit qui est un peu fort. Donc c'est vrai que le choix des chaussures, il est primordial. Courir sur des sols souples assez régulièrement, c'est peut-être mieux que courir sur du macadam. Mais et après, ouais, fitter un peu, mais ça c'est si vraiment on est dans une logique de performance et qu'on veut performer et tout ça. Si t'es juste dans une logique d'entretien, de maintenir et de temps en temps de se mettre des défis, il y a Benjamin Fall qu'on connaît bien et que j'ai eu le plaisir d'accompagner sur le marathon pour tous. Il est resté hyper solide, il est quand même hyper tanké pour un coureur, mais par contre voilà, il a gardé la muscu, il a gardé le renforcement, il se blesse pas et il y arrive à y aller 2-3 fois par semaine, et pourtant il a pas maigri et malgré tout il fait quand même des performances correctes. Ouais.
Profitons de votre présence à tous les deux pour rappeler votre carrière quand même, parce que vous avez marqué vos générations. Anto, toi, la fameuse génération 87, je le disais, l'Olympique Lyonnais, pour vous donner un ordre d'idée.
Et les branleurs, quoi, la génération.
Ouais. C'est surtout qu'au centre de formation à Lyon, ils jouaient entre Atem Ben Arfa et Karim Benzema. Donc voilà.
Là, pour faire la place.
C'était plutôt cool. Un titre de champion, d'ailleurs, décroché assez vite en 2008. Puis ensuite, une longue carrière. Il y a eu Nice, il y a eu Montpellier, il y a eu Bologne. Ensuite, t'es parti en Grèce. Est-ce que t'aimais courir ? Est-ce que t'aimais déjà l'effort ? T'étais un joueur, d'ailleurs, qui enchaînait les allers-retours sur ton couloir. Est-ce que t'as toujours eu cet amour de la course ?
Après, la course à pied en elle-même, non, mais par mon jeu, je me devais d'être endurant et je me devais d'être capable de répéter les efforts. Parce que j'ai joué, comme tu l'as dit, ailier, c'est-à-dire que tu dois défendre, tu dois attaquer, c'est des efforts assez explosifs. Et c'est vrai que j'avais cette qualité-là, que Claude Puel avait relevé une fois, c'est-à-dire que j'étais endurant et j'étais à la fois rapide, donc c'était que c'est pour... Pour le poste d'ailier, c'était les qualités qu'il fallait. Mais après, je ne vous cache pas que quand il fallait, par exemple, l'été aller courir, voilà, c'est le footing, je faisais un échauffement 5 minutes. Après, je faisais ma séance de 30-30 ou un peu d'intervalle. Mais voilà, après, c'était tout. Quoi. Ma séance, c'était 30, 40, 45 minutes maximum. Après, ne me demandez pas plus d'aller courir. Quoi.
Eh ouais, parce que c'est pas ce qui est demandé à des footballeurs.
Ouais, c'est un effort.
40 minutes ou 45 minutes.
Non, c'est ça, ouais. Voilà. C'est un effort de fractionner. Mais c'est vrai que moi, j'ai joué au foot jusqu'à l'âge de 15 ans. Et pour moi, j'avais pas l'impression d'aimer ça, tu vois, j'aimais pas courir, c'est dingue. Je courais après le ballon, je faisais comme lui des allers-retours et tout. Mais pareil, entre les saisons, je faisais pas.
Pas de foncier.
Je faisais pas de foncier, j'allais pas courir tout seul pour faire 30 ou 40 minutes de footing. Ça me venait pas à l'esprit et j'aimais pas ça. Et par contre, le jour où je me suis rendu compte que j'avais des capacités et où j'ai basculé, effectivement, après, tu vois les choses différemment, ouais.
Est-ce que t'aimais courir, toi, Johan ? Profil particulier aussi, toi, un ailier, un joueur très, très puissant, très rapide. Donc t'aimais l'effort court, j'imagine, les sprints comme ça à haute intensité. Est-ce que la course, le fond, ça te plaisait ou pas vraiment ?
Oui, ça m'a plu. Au moment où je suis devenu professionnel et j'ai compris qu'avoir une caisse me permettait d'enchaîner les sprints à répétition. Et des fois, c'est ce qu'on confond. On se dit, moi, j'ai pas besoin parce que j'ai besoin que faire des sprints. Mais si on n'a pas la base et la caisse pour pouvoir les enchaîner, les subir et surtout à haute intensité. Donc, Moi, j'aimais faire des sorties. J'ai mon préparateur physique qui, lui, était dans les marathons, les semis. Donc, ouais. J'ai vite pris goût à faire des grosses sorties avec lui en intersaison. À jeun, on faisait des belles sorties sur des 1 minute, 1 minute, 30-30, 2 minutes. Donc, je savais qu'à partir de ce moment-là, quand je commençais avec lui la pré-prépa, ouais. J'allais avoir mon socle pour l'année, parce qu'après, durant toute l'année, c'est difficile de retaper dedans.
Ouais, tu...
et j'avais juste à préparer les efforts courts, on va dire.
Ah, donc, tu faisais vraiment la caisse en début de ouais. saison, enfin avant même le début de la saison, puis après, ça te servait tout au long de la saison.
Ouais, parce que quand on a 4 semaines ou 5 semaines de vacances, on peut pas rester 5 semaines off. Donc, ouais, j'avais 2-3 semaines où je faisais d'autres activités sportives de loisirs, plaisir, ludique. Et dès les deux dernières semaines, j'allais au Pays Basque et je m'entraînais avec lui. Voilà, il y a des bons spots pour courir, de bons matins, c'est ouais. sympa. Donc, ouais. on voyait pas ça comme une contrainte. Et c'était un moment où on aimait tous les deux se retrouver, un moment convivial aussi, parce que ça fait partie, même si on se tape dedans, c'est des belles séances qu'on faisait et ça fait partie des bons souvenirs.
Ça, c'est une initiative personnelle. C'est pas le club qui te forçait, c'est toi qui mettais en place ça avec ton préparateur physique pour ouais. être sûr de pouvoir assurer
toute la saison. Ouais. Ouais. Toute la saison, les préparateurs physiques, ils auront 30, 40 mecs à gérer.
Ouais.
Donc, il faut un travail de masse qui convient à certains joueurs.
C'est des morphotypes complètement différents.
Exactement, et on travaille tous à peu près la même chose. Bon, le groupe est scindé en deux, donc ça fait quand même 20 mecs à gérer. Ouais. Et par rapport à ça, il fallait que je travaille avec quelqu'un de confiance, et il m'avait suivi à Bayonne, c'était le préparateur physique de Bayonne à l'époque. Mmh. Et après, bon, il a pris une autre route et il est resté mon prépa durant toute ma carrière.
Parce que la difficulté sur une transition, bon, Johan, en plus, il a été rugbyman professionnel et international en équipe de France, c'est que c'est des purs sang, c'est de la puissance pure.
Ah oui.
Comment tu vas aller chercher des qualités sur des fibres qui sont totalement différentes? C'est ça la question.
Pendant leur carrière?
Bah, l'après surtout.
Ou l'après carrière?
Oui, l'après.
Bah, l'après carrière, après, c'est quand même assez simple parce qu'ils connaissent, les bases de l'entraînement. Ils connaissent l'endurance fondamentale, ils connaissent la récupération, ils connaissent le fractionné, ils connaissent tous ces choses-là. Donc ça, c'est assez simple à mettre en place. Mais après, quand tu fais du haut niveau, t'as des qualités pas surnaturelles, mais hors normes. Que ce soit en rugby, en foot, en course à pied ou au badminton, si t'es bon dans ce sport, c'est que quelque part t'as des qualités hors du commun. Et du coup, bah c'est quelqu'un qui court vite, qui doit sauter haut, qui a des appuis ultra rapides, ultra toniques.
C'est plus facile à coacher un ancien champion.
Bah ouais, complètement ouais. Ça dépend des anciens champions, mais je pense que c'est plus facile parce que ils ont cette connaissance là c'est des hommes en plus qui aiment les défis, qui aiment se lancer des trucs, tu vois, à la pré-carrière. Ils pourraient rester tranquille dans son canapé
110 kilos tranquille,
mais c'est ça. Et pourtant, tu vois, c'est des hommes de défis qui aiment aller se challenger sur d'autres trucs. On le voit chez certains. Alors il y en a qui préfèrent aller jouer au golf et pas faire d'activité, et d'autres qui peuvent pas rester en place. Mais du coup, c'est facile à coacher, ouais. Et puis en plus ils ont des capacités hors normes de récupération. C'est quand t'es athlète de haut niveau, c'est que t'as des qualités de base qui sont innées, et ça,
dans n'importe quel corps aussi.
Et tu connais ton corps.
Tu connais tes seuils aussi de douleur,
d'acceptation et de dépassement de limites aussi.
Ouais.
On n'a pas peur de dépasser et d'aller bien au-delà.
Ouais. Quels sont les stigmates que votre carrière professionnelle vous a laissé? On va parler de tes deux blessures graves dans un instant, Johan, mais toi aussi, Anthony, tu vois, on en parlait juste avant. Heureusement pour toi, il n'y a pas eu d'énormes blessures. La blessure classique chez les footballeurs, ce sont les ligaments croisés, toi tu ne l'as jamais connu. En revanche, tu as eu des douleurs à la cheville persistantes, et encore aujourd'hui, ça te handicape sur ta pratique de la course à pied, quoi.
Ouais, en fait, voilà, moi j'ai eu une entorse mal soignée, c'était en 2015-2016. Voilà, tu joues dans un club, il y a des matchs à jouer, tu t'arrêtes 10 jours, on te force, mais enfin, on te fait comprendre qu'il faut jouer. Donc, forcément, des fois, tu joues avec la douleur. Donc, sur le coup, tu le sens pas forcément. Mais après, tu vois, 5-6 ans après, c'est quelque chose que j'ai payé. J'avais une cheville pleine d'arthrose, avec cartilage abîmé. J'étais arrivé à un point où j'avais plus du tout de mobilité sur ma cheville droite. D'ailleurs, comme on en discutait avant, si tu regardes des vidéos quand je cours, tu vois qu'il y a une petite boiterie. C'est pas douloureux. C'est pas douloureux à l'effort. Mais voilà, j'ai cette douleur. Par contre, après, je peux te dire qu'après un marathon ou un semi-marathon, les 2-3 jours qui suivent, si tu me croises en ville marché, tu verras que je vais boiter aussi. Mais Voilà, c'était pareil dans le foot et c'est un peu pour ça que je suis passé sur le billard il y a 2 ans ou 3 ans, je me rappelle même plus, juste pour un peu pour nettoyer l'articulation. Et le chirurgien qui m'a opéré, il m'a dit, mais comment tu fais pour jouer avec une cheville comme ça? J'arrivais à un point où j'avais plus de mobilité, c'est que quand je courais, ma cheville ne bougeait plus, donc c'était comme un pied qui était raide. Et derrière, ben après, tu peux te faire mal au dos, la hanche. Et après, ça, c'est les choses qui suivent. Donc, la course à pied, c'est vrai que j'appréhendais un peu parce que je me suis dit, ben, c'est quand même la base, quoi. C'est là, quand tu cours, c'est tes pieds qui touchent en premier le sol. Et je me suis rendu compte aussi de l'équipement. La paire de chaussures fait une grosse différence. Moi, pendant ma carrière, j'allais courir avec des baskets, avec n'importe quoi.
Les crampons sur la route.
des crampons vissés sur la route.
T'imagines, ouais.
J'avais la mairie derrière qui me gueulait dessus, je faisais trop sur la route. Mais non, je rigole. Mais non, avec des paires de baskets qui n'étaient pas adaptées à la course à pied, tu te flingues le dos, tu te flingues les articulations. Et là, aujourd'hui, avec un bon équipement déjà, je pense que ça aide vachement.
C'est sûr. Johan, on le disait, donc toi, deux grosses blessures, une dont tu es revenu, les ligaments croisés, c'était quelle année d'ailleurs?
2015.
Quel genou?
Genou droit.
Premier match de Coupe du Monde.
Ouais.
Ouais, contre l'Italie.
Exactement.
Donc, difficile de s'en... Combien de temps t'as mis d'ailleurs pour revenir de cette blessure?
C'était entre 6 et 8 mois, on a pris du temps parce que ça arrivait sur la fin de saison, les matchs importants arrivaient et il fallait être prêt, et moi ça faisait 6 mois que j'avais rien fait, du coup on a ralenti sur la prépa, et j'ai repris en septembre, enfin j'ai repris avec le groupe dès la reprise.
Aucune séquelle, tu t'en es remis, t'as pas perdu d'élasticité du genou, tout ça
Jamais trop d'élasticité déjà, je peux mettre les choses dans leur contexte.
Donc, ça règle le problème.
Donc à partir de là, non, on fait en fonction de notre genou au quotidien, on le sent. S'il y a des raideurs sur des changements de terrain, des terrains secs, terrains mous, donc en fonction de ça, ça prenait un peu plus de temps pour récupérer, mais après, non, pas de séquelles particulières.
L'autre est beaucoup plus douloureuse, tu la décris bien d'ailleurs dans ton livre qui est sorti il y a quelques semaines, c'est donc cette rupture totale du tendon d'Achille. Là où je dis que c'est plus douloureux, c'est que, entre guillemets, tu l'as senti venir, puisque tu avais des douleurs persistantes. D'ailleurs, tu le disais à tes proches, jusqu'au jour où ça a lâché. On a tous cette image du coup de fusil, quoi. Le truc, on voit l'élastique péter, c'est ce que tu as ressenti, et on imagine cette douleur qui était insupportable.
J'ai eu la chance de voir un coéquipier à la muscu en train de faire des squats, avoir cette même blessure-là.
Oh, sur un squat?
Ouais, sur une machine à squat, et il s'écroule. Et du coup, il se retourne en pensant qu'on lui avait fait une blague, on lui avait jeté quelque chose sur le tendon, et comme un élastique. Ouais. Et...
Un coup de fouet ou un coup de ceinture.
Ouais. Et il nous dit, mais vous êtes fou ou quoi? Pourquoi vous m'avez fait ça?
Alors
qu'il se retourne, on était tous à 3 mètres, on le regardait quasiment pas. Oh. Et donc, du coup, il annonce rupture lui aussi du tendon d'Achille. Et au moment où je me blesse, je pense
c'est
que c'est la droite aussi. Okay. Et je pense que c'est l'arbitre de touche qui marche dessus. Donc je me retourne, je dis, mais pourquoi tu marches dessus? Et je vois qu'il est loin, et je comprends de suite que c'est le tendon d'Achille. Et ça a été aussi un soulagement de me blesser, parce que personne croyait, comme c'est pas visuel, personne arrive à voir ou à sentir forcément le seuil de douleur que tu peux avoir. Et malheureusement, ça a rendu ma douleur crédible, en fait, on va dire. Parce que j'avais annoncé ma carrière, parce que j'avais trop mal. Et mes performances étaient là. Donc personne ne comprenait exactement pourquoi je voulais arrêter ma carrière.
Ouais.
Mais ça me demandait trop d'énergie en termes de récupération. Et pile au moment où j'arrive à récupérer, il fallait réenchaîner sur les matchs. Et c'était plus vivable.
Ouais, tu te mettais en place un vrai protocole pour pouvoir enchaîner.
Juste pouvoir enchaîner les entraînements.
Et sur l'imagerie, on voyait quelque chose? Tendinite, rien du tout?
On voyait une bursite.
Bursite.
T'es un spécialiste du tendon d'Achille, hein,
il peut opérer aussi.
Ils m'ont dit qu'il va falloir le nettoyer. Ouais. C'était au mois de février. Nettoyer ces 3-4 mois, je dis bon, écoute, j'arrive en fin de contrat et je vais la tenter comme ça, donc voilà, je l'ai fait et c'est pas passé.
Et là, combien de temps tu mets pour t'en remettre?
J'ai pris mon temps, du coup.
Voilà, c'est ça. mais tu es aussi vigilant quand même sur la reprise, parce qu'après l'enjeu, c'est ta vie de tous les jours, donc comment
on fait attention sur les 2 mois post-opération, on fait attention, on suit le protocole de bottes, baisser les talons chaque fois pour vite remarcher, mais on n'a pas cette pression de vite rejouer, donc j'ai l'impression d'avoir récupéré plus vite qu'en m'étant mis une pression du style il faut que je reprenne dans 3 mois parce qu'il y a ce match là où c'est un match à domicile, c'est un match important, Et j'ai l'impression d'avoir récupéré très vite de cette douleur. Et surtout d'avoir évacué le fait de ne plus avoir mal au quotidien.
Ouais.
Et le soulagement, c'est se lever. Ça faisait 2 ans que je me levais.
Tu boitais entre le vent quand même.
C'était horrible. J'avais une fille en bas âge. C'était horrible. Il fallait d'abord que je le chauffe dans le lit avant de descendre.
Ah oui, vraiment. On bouge la cheville dans le lit.
Pendant 1 à 2 minutes, je faisais à gauche, à droite. C'était assez long comme routine matinale. Après, je faisais bain chaud, bain froid avant de m'entraîner sur la cheville.
Ah ouais.
C'était un truc. Ah, mais ça rentre dans le quotidien, donc on s'en rend même plus compte
que
ce qu'on fait juste pour aller faire un entraînement de 40 minutes, c'est aberrant.
Ouais. Aujourd'hui, plus de douleur ?
Non, aujourd'hui, plus de douleur.
Ouais.
Ouais, c'était un soulagement, j'ai arrêté, plus de douleur nulle part. C'est,
mieux.
On a toujours un petit problème, même quand on court, on a toujours un mal à la cheville. Mal
tension, de temps en temps.
Ouais,
T'as pas ce qu'il y a en taux, quoi. Cette cheville qui se bloque un peu, c'est la cheville d'appui où tu la sens un peu quand les kilomètres s'enchaînent ?
Non. Ah, le genou, oui. Ça, le genou, je pense que je sentirai toute ma vie.
Quand il pleut, dès qu'il pleut.
qui gonfle, qui.
Voilà,
se met à raidir un peu dès qu'on enchaîne trop de kilomètres. Et c'est un peu le variateur de notre blessure.
Ouais. Anto, vas-y, tu voulais rajouter un truc, vas-y.
Non, je disais, moi, c'est pareil. Je sens le matin, tu vois, quand je me lève, je sens la cheville, je peux te dire quel temps il fait dehors.
C'est ça, l'humidité.
Ça coince. Et c'est vrai que moi, bon, cette mobilité-là, tu vois, le chirurgien me l'avait dit, il me l'avait dit, même si je t'opère, on va nettoyer un peu toute l'articulation, mais je la retrouve pas, tu vois, j'ai un pied qui descend bien et l'autre qui est arrêté et qui descend pas, donc c'est, tu même pour faire des squats, tu vois, je peux pas descendre en squat complet parce que j'ai un côté,
il y a un côté qui descend et pas l'autre,
ça y va pas, c'est ça, donc,
on compense.
Donc après, je pense que mon corps il s'habitue aussi. Je pense que le corps, il s'habitue, il trouve une position, une façon de faire qui s'adapte.
T'as une compensation, ouais.
Mais tu compenses, donc faire attention. Ouais.
Tu vois, c'est ce que j'avais demandé à Yodu, c'est la course à pied, c'est un sport mécanique.
Ouais.
Et forcément, plus t'allonges les distances, plus tu vas faire de pas, de répétitions et tout. Et si t'as une mauvaise position, une mauvaise posture, t'auras un déséquilibre musculaire qui peut te causer des blessures. Donc il y a des conséquences indirectes.
Ah oui, complètement, ouais.
Donc c'est-à-dire que, est-ce que Anto et Johan doivent être vigilants à tout cela? Bon, ils se connaissent bien, ils se connaissent par cœur, ils savent analyser des douleurs. Mais est-ce que justement ce petit déséquilibre quelque part, il faut y être vigilant?
Il faut faire attention. Alors déjà, ils ont fait le bon choix, c'est de faire du marathon sur un sol plat et propre et lisse,
oui,
de la route dans l'axe.
Oui, c'est ça.
Si c'était mis sur trail, voilà, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué.
Ah, c'est sûr.
Parce qu'avec on connaît nos limites.
Hein. Ouais, voilà, avec ça. Des chevilles et un genou en vrac, à la première descente à 20%, ça termine en roulé-boulet. Donc, alors après, effectivement, il faut faire attention parce que tu as forcément des compensations. Admettons, tu as une pathologie au genou ou au tendon d'Achille, tu vas créer une boiterie qui va te créer une tension à l'ischio sur la jambe d'à côté. Il faut faire attention à ça. Mais après, c'est vrai que, comme il le dit, c'est aussi, comme c'est des athlètes de haut niveau qui ont toujours joué avec plus ou moins des fois avec des pathologies, tu te connais et tu sais que le corps, il s'adapte. Et après, c'est à toi de jongler avec ça, l'entraînement, avec la récup, à soigner, à faire des semelles, à faire des choses, à mettre un protocole en place pour que, malgré tout, tu puisses pratiquer ton sport, ouais.
Question bête, mais ce sont des sports de duel et de contact, notamment le rugby. Est-ce que ça vous manque, ça, aujourd'hui ? Johan, est-ce que ça te manque ?
Le contact, un peu. un peu le contact quand on est habitué, mais j'ai un peu de paddle à côté aussi.
Il n'y a pas de contact non plus, normalement. À part si ça
le contre le mur.
Un peu contre le mur, où on peut taper son coéquipier. Voilà, mais non, je plaisante, mais le contact ne me manque pas. J'en ai pris tellement que de ne plus avoir de douleur, ça me suffit et me comble largement.
Ouais, t'as pas le manque des courbatures du lendemain ou du surlendemain, quoi.
On les a, hein, en faisant un peu de course, un peu de paddle aussi, on cherche, on puise sur des efforts courts, intenses, donc non, on a de belles courbatures après.
Ça te manque, toi, Anto ? La confrontation,
un bon tacle,
pas les contacts, mais c'est plutôt les contacts, non, mais c'est plutôt l'ambiance, là, tu vois, le stade, quand tu regardes les matchs à la télé ou que je vais assister à des matchs. Tu vois, tu t'as un peu, quand t'es dans un stade, t'as un peu ce manque de te dire, t'as envie d'aller sur le terrain. Mais voilà, aujourd'hui c'est fini, il faut savoir se ranger et puis regarder les autres. Après, j'ai les enfants à côté, donc ça me permet aussi de continuer à être au bord des terrains quasiment tous les week-ends et tous les jours avec eux. Donc on continue tout doucement comme ça.
Le sport, ça a toujours été votre vie. Est-ce que vous avez maintenu un peu de la muscu quotidienne et tout, ou est-ce que là aussi vous avez mis de côté? Johan, est-ce que t'as arrêté ça?
Non, on s'entretient, hein, bien sûr, on s'entretient, mais que ce soit pour...
Un peu tous les jours, comme ça
pareil, j'alterne entre course et du gainage, renforcement, mais sans forcément aller aussi chercher des perfs, que ce soit en squat ou du corps. On est juste là pour de l'entretien et ça te permet d'aller chercher aussi un peu plus loin sur des courses, parce que tu sais que t'es entretenu, tu sais que tu fais du renfort aussi pour le dos, donc voilà, t'as moins d'appréhension.
Et toi, Anto? Toi, oui, vu comme t'es gainé, les abdos et tout.
Je crois que j'ai. Une fois par semaine, je pense que je suis off. Vraiment off. Mais sinon, après tout le reste du temps, déjà, tu vois, depuis janvier, quand je préparais Séville, j'étais passé. Pour le marathon pour tout, j'étais à 3 séances de course par semaine. Ouais. Et je me suis rendu compte, si tu veux franchir un palier, il faut augmenter le nombre de sorties. Et là, tu vois, je suis à 5 sorties par semaine. Et plus après renfo à côté, ça m'arrive même de faire course plus renfo. Je suis un peu fou avec ça, mais c'est là-dedans que je me retrouve, c'est là-dedans que je me sens bien. Donc tant que mon corps il suit. Et puis quand je me dis avant quand tu faisais le sport et que tu dois être performant, il faut savoir être frais aussi pour le jour de la compétition. Là, si un jour je suis plus fatigué qu'un autre, je me couche plus tôt. Je veux dire, j'ai pas de compte à rendre derrière. Je dois pas être performant derrière pour un match ou pour telle compétition. Donc, ça me permet des fois de bien pousser. Et si je suis trop fatigué, le lendemain, je récupère et j'ai pas d'objectif, à aller chercher à vouloir me préserver. Je me couche plus tôt, puis voilà.
Est-ce que leur profil de sportif, ça leur permet d'avoir une pratique plus rapide et une évolution plus rapide de la pratique? Là, tu vois, Antoine nous dit, je suis passé de 3 sorties à 5 sorties assez vite. Non, mais... ils sont pas vraiment la différence. C'est parce qu'ils ont fait du sport toute leur vie.
Ils ont conscience, quand t'es sportif de haut niveau, en fait, ton outil de travail, c'est ton corps. Donc, depuis tout petit, depuis l'âge de 15 ans, quand t'es en centre de formation, on t'apprend de faire attention à ton corps parce que c'est ton outil de travail. Et donc, effectivement, t'as ce rapport avec ton corps et avec à ressentir les sensations qui est ultra décuplé par rapport à un coureur classique ou à un sportif classique. Et voilà, le fait de se connaître parfaitement et d'avoir toujours eu conscience que son corps, il faut l'entretenir, tu vois, même à la pré-carrière, tu peux te dire, les mecs, ils font plus rien, tu vois. Mmh. Mais non, parce que toute ta carrière, t'as été matrixé par ça, à faire attention à ton corps et à bien le gérer. Mmh. Et donc, effectivement, ça t'aide dans la pré-carrière et ça t'aide pour augmenter des volumes de façon progressive. Et c'est pareil, ils ont cette capacité à se dire, je m'entraîne 2-3 fois par semaine, je vais pas m'entraîner 7 fois par semaine la semaine suivante, tu vois.
Oui,
parce que
il y a pas de pression particulière.
Ouais, il y a pas la pression particulière, et puis surtout ils savent que c'est contre-productif. C'est dans tous les sports, la progressivité à l'entraînement ou en prépa physique, tu passes pas de 20 kilos en squat à 120 kilos le lendemain, il y a aucune cohérence. Donc ils connaissent les steps, ils savent que tu passes de 3 entraînements par semaine à 4, puis quand ça passe à 5, et puis tu vas comme ça crescendo, ouais.
Vos souvenirs de coureur, alors allons-y. Ce marathon pour tous, Johan. On nous a peine d'en parler.
Le cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné, je pense.
Voilà. Comment ça s'est passé ce jour-là, alors?
Jusqu'à la course, c'était très bien.
Jusqu'à la course.
Non, on a enchaîné. On a fait d'abord les 10, après le semi. On sentait la progression. Ouais. J'étais à 1:40, je crois, sur le mon premier semi.
C'est bien 1:40 au
semi. Moi, j'étais plutôt satisfait. Et je me suis dit, on va continuer comme ça. On a fait une ou deux sorties par semaine. Pas très sérieusement non plus.
T'as pas poussé le truc
assez assidu, parce qu'il y avait les JO en même temps. Il y avait beaucoup d'événements à préparer. Ouais. Et puis je me suis retrouvé là.
Il est arrivé ce soir du mois d'août. Voilà. C'est ça.
Et là, je me suis dit, il faut vraiment partir. Ouais. Donc l'ambiance avant était incroyable. Tous ces gens surmotivés. Ouais. Et je me suis posé des questions. C'est quand tout le monde me disait, hey, t'as fait quoi comme entraînement? Et je n'osais pas répondre. Je n'osais vraiment pas répondre. Ah là, non, cette semaine, je ne fais rien parce qu'il y a le marathon dans une semaine. Donc je ne sors pas, je ne vais pas au resto. Je voyais tout le monde vraiment focus. Et là, ça commence à mettre un peu la pression.
Tu vois. Je vais mettre le doute. Ouais.
Et alors? Donc, j'ai commencé à avoir peur et je dis, il faut y aller. Hein. Et j'étais avec Robert Pires.
Ouais. Ou qui a souffert aussi, Robert. Ouais. Regarde, ça me fait.
Mais tout le monde a souffert, je crois.
Et on commence à partir, je dis, on reste ensemble.
Ouais.
Et tu peux pas rester avec quelqu'un.
Ah bah...
ah non, non, non.
Tu peux pas rester avec quelqu'un. Sur un marathon ou même c'est sur un semi, il faut que tu aies ton ah, rythme. Sinon, parce qu'au bout de 5 km, je voyais.
On te remet des bons souvenirs hein, sur la chaîne YouTube de Hamza Running. La foulée, ouais.
Ça, c'était avec mon prépa. Il m'a niqué aussi. Il devait le faire avec moi et juste avant de partir, il a eu mal au mollet.
Ouais.
Donc il a fait que la fin.
Il t'a aidé
c'est
sur le
tapis. C'est pour ça qu'il est frais.
Donc je suis couru tout seul. Ouais, les 5 kilomètres, les 5 derniers kilomètres quand il m'a vu.
Ah pour les vidéos.
Ah, bon, ah il était terrible.
Ah bon.
C'était terrible. Mais ouais, on fait des
belles sorties. T'es allé au bout, c'était le principal. T'étais heureux d'aller au bout quand même.
Écoute, quand je voyais tous ces gens tomber devant moi, je me suis dit, je vais tomber à un moment donné.
Ça va m'arriver. Ouais. La crampe arrive.
Eric, je crois, Bilal est tombé.
Ouais, Eric, ouais, bah,
il est tombé, fini, alors que lui, il est bien préparé. Ouais. Il a fait le marathon juste avant. Si, je me suis dit, si lui tombe, moi, je vais tomber ce soir. Donc j'attendais juste mon moment, tu vois. À quel moment je vais tomber?
À quel moment ça me tape?
À quel moment? Et en fait, je l'ai vu passer juste avant la Côte des Gardes. Avec son coéquipier, ils sont passés à deux là comme ça.
Ouais. Là, il te met une petite tape sur les fesses.
Non, pas du tout. J'avais envie de mettre un tac. Je me suis dit, il vole sur le. Après lui, il y a Rio qui m'a doublé.
Ouais.
Ah, j'ai dit, c'est pas possible. Et à la descente, écoute, à la descente.
Là, c'est pire que la montée.
Les crampes.
Plus rien. Non, aucune crampe, super bien.
Ah ouais.
Mais j'avais deux bouts de bois, quoi. Donc.
Des poteaux.
Ouais, deux poteaux.
Et
j'avançais comme ça.
Ok.
Et je me suis dit, marche. Et même en marchant, j'avais encore plus mal, donc je me suis dit, bon,
cours foutu.
Tu fais ce que tu veux, quoi.
Donc c'est les 10 derniers kilomètres, tu sais, tu te bases toujours sur ton dernier kilomètre que t'as fait en sortie,
ouais.
Tu dis, bon, dans une heure, c'est bon, je suis arrivé à peu près, ou 45
ouais.
minutes.
Ouais. Mais non.
Et là, j'ai mis 1h10 ou 1h20, ouais. J'étais au bout de ma vie.
Bah, il faisait pas jour quand t'es arrivé.
Non.
Mais t'as eu une émotion à l'arrivée, t'étais
zéro émotion, j'ai pris mon vélo, je suis rentré. Je voyais tout le monde qui se congratulait, je me suis dit, ils sont complètement fous, ces mecs.
C'est bon, ça.
Il y avait du monde partout, tu pouvais pas rentrer chez toi.
Il y avait du monde.
Ah ouais, c'était... pour sortir.
Ah, pour sortir.
Ah, le boulot, là.
J'ai pris mon vélib, je suis rentré.
Ah ouais. Énervé, quoi.
Non, mais je me dis, ça se finit jamais. Je peux pas prendre un Uber, je peux rien prendre, je suis obligé de prendre un vélib.
C'est bon, ça.
Ah, c'était la nuit et après, les 4 jours derrière, c'était.
Mais rassure-moi, ça t'a pas dégoûté.
Un triathlon pour en
Ouais, c'est ça, triathlon. Limite, il a nagé dans la Seine.
Il manquait que la Seine.
Ouais, c'est ça.
Non, les 3 jours derrière, je pouvais pas dormir. J'avais
ça te lançait.
Ouais, c'est ça. J'avais mal partout, sur mes fesses. Enfin, j'ai aucune position agréable pour dormir.
Ouais. Pas les escaliers.
Ouais. Bah écoute, mais bon, ça me rassure de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont souffert sur ce marathon pour tous.
Ah, il y a
beaucoup de monde qui a souffert.
Il y a eu des dégâts.
Beaucoup. Ouais. Ouais. La chaleur, la nuit, le dénivelé. Ouais, c'était.
Mais en fait, j'avais un problème, c'est que je savais pas à quel moment manger.
Ouais.
J'avais soif. Je buvais, ça me faisait mal au ventre. J'avais faim, je mangeais. Ça, je savais pas à quel moment bien me ravitailler.
Se ravitailler.
Et puis les gobelets, c'était pas très pratique.
Les gobelets, c'était pas pratique. Ouais. Ouais.
Bon, ça sert à rien.
C'était dégueulasse aussi. Hein.
En plus.
Ouais, c'était l'eau de la Seine. Ouais.
On n'osait pas le dire, mais tu m'as dit.
ils avaient pris l'eau de la Seine. Donc.
Ouais. Bah, vas-y, Antoine, raconte-nous ton marathon pour tous alors.
Non, bah écoute, moi déjà, la prépa, moi je l'ai faite en plein été en Grèce. Donc tu vois, la chaleur,
j'ai
pas forcément peur. Moi, je fais des sorties, j'étais obligé de partir à 4h du matin, et même à 4h du matin, il faisait déjà 30 degrés, tu vois. Sauf que tu n'avais pas le soleil, mais il faisait déjà super chaud.
Ah ouais.
Et du coup, écoute, le marathon, je pars, donc j'avais mes allures, je suis bien, et je vais te faire une confidence, donc j'avais peur de cette côte. Donc, à la première côte, je crois que c'était du 15 au 20e, donc ça va. Et après, arrivé aux celles qui montent vraiment, je croise Dorian dans la côte.
Ah,
Dorian,
je
me sens pousser des ailes, c'est... Je le croise, je me sens, je commence à pousser un peu. Et j'arrive en haut de la côte, donc en haut de la côte c'était au 30e, donc
35, il
restait 10 kilomètres
derrière. Ou 32, ouais, il restait 10, ouais, un peu moins.
Ouais, 10 ou 12.
Ouais.
J'arrive et je dis en fait, peut-être que le marathon, les gens ils te disent, marathon c'est un sport, c'est de fou, c'est pas humain. Et moi j'arrive au 30e et après je vais te faire une confidence sur un autre qui a fait le marathon de Paris et qui lui est arrivé la même chose et il m'a dit exactement pareil que toi. Ouais, cette vidéo là. Ouais. Là, tu vois, monter vite. Hein.
Ah, là, tu montes vite, toi.
T'es là où je l'ai croisé.
Ah ouais, c'est comme facile, ça. Hein. Ah ouais.
Mais comment t'as pu laisser passer ça, Johan? T'aurais dû lui mettre
un mec
bagage,
comme ça.
Moi, je suis pas passé dans les arceaux, là.
Ah ouais.
J'étais pas là pour faire la fête.
Non, mais là, ça se plaque, un mec qui passe comme ça à côté de toi.
J'arrive au 30e. Donc, du 30 au 32e dans la descente, je récupère un peu. Et tu vois, je commence à être bien. Et après, par contre, et je me suis dit, bon, en fait, le marathon, c'est ça,
facile,
il me reste 10 kilomètres, comme Johan, il a dit avant,
marathon,
10 kilomètres.
C'est de l'eau, ouais.
Bon, ouais, 50 minutes, en 50 minutes, je suis arrivé, nickel. Et là, du 32e au 34e, je commence à retrouver mon rythme. Et au 34e, une crampe qui arrive sur un muscle de mon corps que je ne connaissais même pas. T'as vu sur le devant du tibia, là. Ah, image de Périos. Et mon pied, il partait comme ça. Mon pied, il partait comme ça.
Tout seul. Ah
ouais, il voulait plus.
Il partait tout seul sur le côté. Ouais. J'ai dit waouh. Donc là, je ralentis. J'avance bien, je suis bien. Je commence à retrouver au 36e ischio. Mais là, ischio, je me dis, je me suis pété. C'est-à-dire que
ma reine. T'as cru que c'était un claquage, ouais.
Ah ouais.
Ouais, mais en plus, je vois des mecs, des pros, hein, des mecs en cycliste, débardeurs et tout sur le côté en train de se garer. Ils étaient cuits. J'ai dit, mais eux, comment ils ont l'air d'être pros, tu vois? Comment ils font pour être sur le côté? Et moi, et au 36e, j'ai compris ma douleur. Et là, impossible. J'avançais plus. Et dès que je voulais allonger ma foulée,
crac,
derrière la boule, elle arrivait la crampe.
Et te remordait.
Je vais jamais finir. Et là, je me suis dit, je vais pas finir. Je vais pas finir. Et là, j'arrive. Après, t'arrives dans un état comme ça où tu sais plus où tu es. Donc, tu t'alimentes plus. Tu prends plus le gel comme il faut, tu bois pas bien, déshydraté et tout. Et là, j'arrive à l'arrivée, je dis plus jamais de ma vie, je fais un marathon, c'est pour tout ce sport, vous êtes des malades, je fais plus ça, tu vois.
Et puis, le pire, c'est quand tu passes sous les ponts, ça descend.
Ah, bah ça ne rentre
jamais, ce truc.
Ah, bah oui, bien sûr. Mais après,
le parcours était dur. Hein.
Après, je veux pas te réconcilier avec le marathon, mais t'as fait le plus dur. Pas plus dur que ce que t'as fait, Yoann. Là, si t'y retournes, tu trouveras un truc plus facile, quoi qu'il arrive. Il y en a des marathons difficiles, mais celui-là, il était particulièrement difficile.
Ouais, et tu vois, en parlant de marathon, l'anecdote, il y a Morgan Schneiderlin qui a fait le marathon de Paris.
Exactement. Il est venu dans le podcast, d'ailleurs, juste après, ouais.
Eh ben, on s'appelle après le marathon et je lui ai dit, il m'a dit, écoute, Anto, ça m'a fait comme toi, jusqu'au 35e, 36e. Je lui ai dit, mais attends, les gens, ils font toute une histoire du marathon, c'est 35e.
C'est facile.
Au 37e, il m'a dit, j'ai pris un mur. Les 5 kilomètres les plus longs de ma vie. Et ouais, c'est en fait. C'est que, je pense qu'ils disent que, tu sais, ils appellent ça le mur du. Bah, moi, on me disait ça, hein, le mur du 30e kilomètre. Mm. Mais je pense qu'il faut le changer, le mur. Ils l'ont changé au 35e. Hein. 35e,
mais parce que t'es assez bien préparé.
Moi, j'ai pris à 30. Hein.
Ouais. Celui qui n'est pas préparé, il le prend. Il le prend plutôt. Hein.
Il y en a plusieurs.
Ouais, il y en a plusieurs.
C'est un enchaînement de murets, comme ça. Ouais. Bim, bim, bim.
Les 10 derniers kilomètres, ils étaient terribles.
Ah, c'était long.
Quand tu ne peux plus avancer, c'est ça. Quand tu ne peux plus avancer, tu te dis, mais les trucs que je passe en 20 ou 25 minutes.
Tu mets une heure pour y arriver.
Mais une heure,
tu marches, t'as mal, tu recours, t'as mal, tu t'arrêtes.
Et ce panneau de chaque kilomètre, il arrive jamais.
Ouais. Et puis tous les gens à côté qui disent vas-y, vas-y, vas-y.
Il est pas loin devant.
À 2h du matin, il n'y a plus grand monde.
Ah, c'est ça.
Ah, il y avait des cadavres. Il y a des cadavres au sol. Il y a des gobelets partout.
Ceux qui sortaient de boîte.
C'est ça, ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, c'était un souvenir incroyable. Si on revient sur notre sujet, Yoann, et qu'on parle donc de la transition, passer d'un sport co à la course à pied. Déjà, est-ce que ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, est-ce que tu peux leur donner des conseils si jamais ils veulent pratiquer les deux? Parce qu'il y a beaucoup de rugbymen amateurs, de handballeurs amateurs, de footballeurs amateurs qui se disent « Bah, moi, j'aime bien courir, ça me fait une récréation, parfois je vais faire un semi après un 10. » Est-ce qu'on peut cumuler les deux déjà?
Ouais, les deux peuvent se faire sans aucun problème. Si t'es coureur et que tu veux faire un sport co comme le foot ou le rugby ou n'importe quoi, il y a le côté course et qui a des avantages et le côté sport co qui a des avantages aussi. L'avantage du sport co, c'est que c'est un sport social. La course, t'es solo, généralement t'es tout seul contre toi-même. Si tu fais que ça, bah des fois tu peux devenir dingo parce que tu peux parler à personne si tu cours tout seul chez toi. Tu peux le pratiquer comme ça de façon individuelle. Côté social, sur le sport co, c'est très bien, tu vois tes potes, tu t'amuses, c'est un jeu en plus, c'est différent de la course à pied où le seul plaisir que tu trouves, bah, c'est dans l'effort, tu vois. Donc, ce côté-là, pour le coup, le sport co a cet avantage-là. Et à l'inverse, pour le sportif qui lui a fait du sport co et qui va de temps en temps sur un sport sur la course à pied, c'est pour le côté cardio, le côté condition physique, c'est la base de tous les sports, la condition physique, que tu fasses n'importe quel sport, à un moment donné, si t'es pas capable d'enchaîner les efforts, de répéter les trucs, bah au bout d'un moment tu t'épuises et tu perds un petit peu. Donc effectivement, tu peux y aller, un footballeur peut aller de temps en temps faire de la course pendant 30-40 minutes.
Est-ce qu'on peut être performant plaisir. Est-ce qu'on peut faire une prépa de 10 ou semi si on continue de jouer au foot régulièrement?
Ouais, alors après, la vraie difficulté, c'est qu'il faut pas se blesser. C'est juste qu'il faut y aller à dose homéopathique. Si t'as l'habitude de faire du sport co. Le problème du sport co, c'est que malgré tout, t'es obligé de faire les entraînements avec les copains. Tu peux pas, ou alors t'y vas une fois par semaine, un dimanche matin, jouer en corpo. Mais sinon, si tu dois y aller, les entraînements le mercredi, le vendredi, la mise en place tactique et les matchs le dimanche.
Mise en place tactique.
Ouais. Ça dépend à quel niveau.
Ouais, c'est ça.
Mais non, ouais, la problématique, c'est ça, c'est que comme ça reste un sport co, bah, qui dit sport co dit, tu te dois d'être aux entraînements quand même pour, bah, être avec les copains, pour finir le travail et pas venir comme ça, hein, je veux sur la soupe le dimanche matin. Mais, ouais, il faut juste y aller à dose homéopathique et pas se blesser. Le problème, enfin, la course à pied, tout à l'heure, on en parlait, mais c'est un sport dans l'axe. Si tu restes dans l'axe, si t'es bien équipé, si t'as des bonnes chaussures, il y a, à part des tendinites, des choses comme ça et des pathologies musculaires sur des efforts qui sont trop forts, tu peux pas te blesser. Le sport co, l'inconvénient, c'est les chocs avec les adversaires,
et
les tacles, les machins, et les temps de récupération qui est plus long, surtout sur des sports comme le rugby. Ouais.
Tu peux pas optimiser ton potentiel si tu continues à pratiquer un sport co.
Non, c'est compliqué. À un moment donné, il faudra faire un choix, parce que effectivement, il y a quand même une contrainte à allier sport co et sport individuel. Tu peux pas faire les deux pendant plusieurs années et vouloir être performant sur l'un. Mais par contre, faire les deux pour le côté plaisir de la chose et se dire de temps en temps, je fais du 10K, du semi ou même un marathon. Mais par contre, je veux garder mon sport co en sport principal. Je trouve que c'est pas mal, ouais.
Il y a des points forts que tu développes sur les sports dont on a parlé, sur le rugby, sur le foot. C'est surtout au poste auquel jouaient Johan et Anthony. Le sprint court, l'explosivité. J'imagine, les gars, sur les séances de fractionné, vous souffrez pas trop, d'ailleurs. Même toi, Léo, si tu fais du fractionné, du 30-30 et tout.
On va le chercher quand même. Donc, on repousse les distances.
Ouais, mais c'est un effort auquel ton organisme est habitué.
Ouais, il est habitué, ça, c'est sûr. Il est habitué, mais je sais pas si on s'habitue au fractionné quand même. non, c'est sûr qu'on sait à peu près réguler aussi notre effort.
Ouais, son allure.
Pour arriver au bout de la séance, tout en y tapant un peu dedans. Mais là où j'aimerais comprendre, c'est ces trois phases que tu as dans la course, où beaucoup de gens qui débutent ou qui démarrent par le running, c'est cette phrase où tu t'ennuies au début, tu vois. Et moi, je suis passé par cette phase-là et j'ai failli arrêter, mais j'aime ça, donc tu vas un peu plus loin. Et j'ai l'impression que ça arrive après 5 km où tu te rentres dans une forme de, je ne sais pas, de méditation, je ne sais pas si on dit ça. Mais tu t'oublies un peu.
Un état différent, ouais.
Tu t'oublies un peu, mais les 5 premiers. Le démarrage.
Il est long.
Les 15 premières minutes,
tu
t'ennuies. Tu vois, tu tournes un peu en rond, tu réfléchis à tout ce que tu as à faire. Et d'un coup, tu sais pas, boum, ça part. Et là,
t'es bien. Ouais. T'as les endorphines, tu crées les espèces d'endorphines, là, les hormones un peu du plaisir. Et c'est vrai que, effectivement, t'as cette phase-là. Donc, pour contrer cette phase-là, ce qu'il faut faire pour les coureurs débutants, le conseil, c'est soit d'y aller en groupe, à deux, trois, avec des potes. Comme ça, justement, ce premier quart d'heure qui est un peu dur de mise en route, où tu te dis, ouais, c'est super long. Ce qui parle, là, je le ressens quand je vais faire du vélo. Quand j'ai 60 bornes à faire de vélo et que j'y vais solo, mais les 20 premiers, ils sont longs, mais c'est interminable, ce truc. Ouais. Et par contre, une fois que t'as passé 30, là, tu commences à envoyer, tu te régales et tout. Et là, ça passe bien. Donc, y aller en groupe, ou alors après, courir en musique ou autre, ou des fois être capable de penser à des trucs. On parle souvent des fois que t'as des idées en courant, c'est-à-dire que tu laisses ton esprit vagabonder et des fois pour les chefs d'entreprise et tout, ils te disent putain, j'ai eu ce déclic en courant, parce que ton cerveau il se met un peu sur off et t'oublies un peu tous les soucis, et par contre t'es hyper créatif.
Anto, tu as dû le ressentir toi aussi, parce que le principal écueil à éviter quand on démarre la course à pied, c'est que tous on court forcément trop vite. Il y a cette notion d'endurance fondamentale où il faut courir doucement pour aller créer cette base foncière. Je suis persuadé que t'es passé par là, Anto. C'est foutu
lui,
trop
c'est
rapide
sûr.
Et t'as dû le payer d'ailleurs.
Lui, c'est sûr et certain, je le vois à sa tête.
J'ai compris après le marathon pour tous, mes sorties EF. Comme on appelle, ce que je dis on, parce que maintenant je suis un coureur.
Ouais, ça y est. Il a basculé, ça y est.
les sorties EF pour la préparation marathon pour tout, je les faisais trop rapide, tu vois. J'étais trop rapide. Et après avoir discuté avec pas mal de gens, ils m'ont dit non. Et en fait, il faut une image vraiment qui m'a aidé à changer mon allure sur l'EF, c'est-à-dire que tu dois être une allure où tu t'ennuies quasiment.
Tu dois être capable de parler.
C'est ça. Ouais.
Tu vois, donc c'est paradoxal. Tu pars faire ton sport, mais tu t'ennuies. Ouais. Et voilà, c'est une allure. Et aujourd'hui, c'est ce que là, tu vois, j'ai des gens qui me voient courir ici en Grèce, et j'ai organisé là tous les samedis matin C'est pareil, j'organise un petit groupe et quand ça commence à grandir, tu vois, on a commencé des 3-4 personnes, là, on arrive à être une quinzaine, une vingtaine. Ouais. Et c'est pareil, c'est des gens qui ont du mal à se mettre au sport tout seul. Et comme tu disais, Yoann, tout à l'heure, c'est-à-dire que les 15 premières minutes, ils s'ennuient et donc ils abandonnent et ils rentrent chez eux. Et le fait d'aller courir en groupe, eh ben, ça leur permet de faire. J'ai une dame qui est venue il y a 15 jours, elle n'avait jamais couru plus de 5 km. On était en groupe, elle a fait 7 km, tu vois. Donc du coup, ben voilà, le groupe, ça aide. La force du groupe, s'il y en a un qui est un peu moins bien, et ben le fait d'être en groupe, il va pas lâcher aussi. Quand t'as un engagement, tu te dis oui, il y a un groupe, j'ai dit que j'étais présent. Ben, ton réveil sonne le matin, tu vas y aller parce que t'as pas d'excuse. Tu dois y aller pour te présenter au groupe. Et voilà, toutes ces choses-là font que ben les gens y prennent goût. Et c'est vrai que sur cette endurance fondamentale, je leur dis au début quand vous partez courir. Allez-y, vraiment tranquille, quoi, un rythme où, vraiment être lent. Et je leur dis, genre, par exemple, les plus grands champions qui courent des marathons en 2h10, 2h15, ils courent leur EF.
Regardez-le, lui, là.
5 au kilo. 5 au kilo, ça me va bien.
5 ou 5,30 parfois, ils courent le marathon en 2h10, 2h12. Bien sûr. C'est l'exemple concret.
C'est ça. Et là, je l'ai bien compris. Je l'ai bien compris. Et aussi, pourquoi? C'est ce qui m'a permis aussi d'enchaîner, de pouvoir passer maintenant à 5 ou 6 séances semaine. Parce que si tu vas sur tes sorties EF que tu t'envoies, comme moi je faisais, le lendemain, tu peux pas remettre les chaussures et aller faire un fractionné, par exemple. Alors que ton footing EF va te permettre de récupérer de ton fractionné de la veille et te préparer pour la séance d'après, tu vois. Donc après, c'est toute une logique d'entraînement qui fait que tu peux te permettre de courir quasiment tous les jours.
J'ai un souvenir terrible au mois de juin de l'année dernière sur un footing du dimanche matin comme ça au bois de Boulogne, j'avais croisé Robert Pires sur une sortie comme ça. J'ai l'impression qu'il était puni. Il avait un visage.
Il était un œuf.
Ah, il avait aucune envie d'y aller, tu sais, avec sa façon de courir en canard. Ah, là, Robert, tu vois comment il court.
Il a fini le marathon.
Ah, il a fini, mais c'était un calvaire pour lui. Il avait aucune envie d'y aller. C'était fou.
Le pire, c'est quand Dorian l'avait amené faire une séance de 10 x 400.
Ah ouais,
sur la piste à tourner.
Sur la piste, il me dit, écoute, Yoann, c'est la première dernière fois.
C'est bon, ça. Mais Anto, tu dois être fort, par contre, sur les séances comme ça. Toi, ancien footeux, ancien ailier, sur tout ce qui est 400, 500, tout ça. Tu dois être assez solide, hein, c'est sûr.
Ouais, ça, c'est des séances que j'aime bien, mais par contre, je ne les fais pas sur piste.
Ah, tu les fais en dehors.
Je déteste la piste. Ouais. Ouais, je les fais dehors sur des lignes droites, tu vois.
Ouais.
Mais sur la piste, je déteste courir sur la piste. Tu vois.
Bon, ça viendra. Ouais, ça viendra, rassure-toi.
Mais ça, c'est peut-être parce qu'ils ont été traumatisés par les prépas physiques.
Ah, c'est possible.
Je sais pas si c'est pas parce que vous avez été traumatisés par les prépas physiques qui vous faisaient peut-être tourner en rond sur la piste en début de saison ou autre, non?
Pas, mais non, moi je sais pas, mais là la piste pour l'instant, j'y arrive pas. Je veux sur des grandes lignes droites, même si des fois tu fais des 600 mètres, donc sur une ligne droite c'est interminable. Hein.
Ouais, c'est long.
Je préfère que de faire des tours de piste.
Hein. Ok.
Ça ressemble à quoi vos prépas physiques à vous, d'ailleurs, sur le foncier et tout en début de saison avec le Stade Toulousain
Bah bizarrement, on s'est enlevé de tours de piste qu'on a pu faire quand j'ai démarré à l'époque.
T'es passé par là quand même.
Ouais, on y est passé, mais ça c'est quand j'étais au centre de formation et on faisait des tours de piste, voilà, le Vameval, on faisait truc interminable. C'était une base. Et là, maintenant, on associe plus le jeu dans la prépa. C'est-à-dire qu'on peut faire des séances une minute, comme on peut le faire en sortie, sauf que là,
on met
le ballon au milieu, on demande beaucoup d'efforts. Et je trouve que c'est en adéquation avec ce qu'on fait, parce que des avant, les mecs qui font 140 kilos, tu leur demandes
de faire des 1000 mètres.
de leur faire faire des 1000 mètres, alors qu'ils en courent 4 ou 5 par match, grand maximum, et tu leur demandes de faire 5 km d'entraînement.
J'imagine pas un Vini Antonio sur un 5 x 1000. Déjà, je le vois, il a du mal à courir sur n'importe quel match.
Là, tu te dis comment il fait pour jouer, surtout.
Mais
il est toujours là.
Ah, c'est fou.
Et avec l'âge, je pense que c'est l'anticipation, tu arrives à anticiper.
Ah, t'es plus malin.
T'es plus malin.
Tu fais plus les efforts inutiles. Tu les anticipes
et c'est la force aujourd'hui de quelqu'un qui a l'expérience et l'autre qui a un peu.
Mais les prépas physiques de Sportco ont beaucoup évolué aussi. On le voit, la prépa physique, les datas, c'est devenu hyper important dans les Sportco. Il n'y a plus rien qui est laissé au hasard. À l'inverse des années 90 où j'ai souvenir des prépas physiques comme prof de PS, tu vois, avec le chrono et
tu tournes. Et tu tournes. Et là aujourd'hui, sans voir le nom, on est capable de faire une équipe de foot ou de rugby juste avec les datas.
Ouais, voilà, bien sûr.
Sans se dire, on prend les quatre ailiers, on prend celui qui a fait la meilleure semaine. On ne sait pas qui c'est, si c'est un jeune ou pas, et on le met. Et ils sont sûrs de réaliser à part le schéma tactique et tout ça. Mais ils sont sûrs de réaliser un bon match physiquement avec ces joueurs-là.
Parce qu'ils ont tellement donné qu'ils savent exactement ce que ça va...
De donner sur la puissance, la récupération et l'intensité.
Ouais, c'est fou.
Et puis la forme du moment.
Vous savez que même dans le foot aujourd'hui, tu as des clubs, parce que moi j'ai un peu basculé aussi sur le côté un peu agent de joueur, tout ça. Tu as des clubs, avant de proposer des joueurs, c'est-à-dire que tu leur proposes n'importe quel joueur, ils le rentrent dans leurs données de data. Si les données ne correspondent pas, en gros, au fichier qu'ils ont, eux, pour leur club, le joueur, ils ne vont pas le prendre. Même si le mec sur un terrain, il va être un top joueur, si ces datas ne rentrent pas dans la politique du club, il le regarde même pas. Il y a des clubs comme ça, des clubs anglais, beaucoup, que si ton joueur, tu leur proposes, il ne correspond pas à leur fichier de data, ils vont même pas le regarder, alors que c'est quand même un sport à la base, tu vois. Enfin,
c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes quand même sur des sports de talent. Il y a du flair, surtout à bon poste à vous. Ah. C'est un moment. C'est la décision humaine qui fait la différence.
On est formaté à enchaîner. Et puis les joueurs aussi maintenant se réfèrent à ces data. Avant, on était capable de sortir du match et se dire j'ai fait un bon match. Personnellement, faire son autocritique. Aujourd'hui, le joueur va chercher ses data.
Il regarde le nombre de plaquages
qu'il a fait, le nombre de d'accélérations. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est un peu biaisé parce que tu n'arrives pas à te faire ton autocritique, tu as besoin d'aller chercher toi-même les data pour savoir si tu as fait un bon match. Puis derrière ça, tu regardes la vidéo pour te dire est-ce que j'ai fait ou pas un bon match.
Ouais, mais Louis Bielbiaré, il est très fort, pas parce qu'il a des qualités physiques énormes, c'est aussi parce qu'il a un sens du rugby et tu vois, ça suffit.
Si, mais il a une grosse qualité physique.
Non, mais au départ, bien sûr, il a une vitesse de course. Non, mais même
au-delà, c'est la caisse qu'il a, ce garçon. Tout le monde pense que c'est sa vitesse.
Mais il y a du flair rugbystique, non, quand même?
Il a un peu de flair, mais tous les joueurs à ce niveau-là, ils ont du flair.
C'est vraiment le physique qui fait la différence.
Cette capacité-là à accélérer, tu le vois, les joueurs, que ce soit en équipe de France, que ce soit en équipe de France ou à Bordeaux, il récupère le ballon, il regarde où il est, et il tape dans son axe pour
qu'il accélère.
C'est ça, tu vois. Mais parce qu'ils savent qu'il est capable d'enchaîner ces sprints-là de 50 ou 30 mètres à répétition et qu'il a la caisse.
Donc,
Ça aurait été un bon coureur de 400.
Très très bon. 200, même 200.
Ouais, 200, 200. Ouais.
T'as pas envie de l'affronter, non. Ça, c'est sûr. Et t'as Penaud de l'autre côté.
Donc là, bon, il faut pas lui laisser l'espace, quoi. Ça, devant et derrière.
C'est ça. Exactement. Si on en revient à tous les sportifs amateurs qui nous écoutent, les rugbymen, les footballeurs et tout, si là on a parlé de la façon de concilier les deux, si on arrête, si on se dit, j'ai l'âge aussi, j'ai plus envie de me lever le samedi matin pour aller jouer avec les potes et tout, je veux basculer complètement sur le running, ce qui est un peu en train de vivre Anto, par exemple, qui s'est mis à fond dans le running. Bon, Anto, il a été professionnel, donc c'est différent. Mais pareil, quels sont les conseils que tu donnes, là, Johan? Cette progressivité est importante.
C'est la base, ouais.
Mais qu'est-ce qu'il faut travailler en priorité? C'est ça, c'est cette base foncière, l'endurance, c'est ça qui va manquer.
Ça dépend de ton sport. Si tu prends un cycliste, Nasser Bouhanni ou Lilian Calmejean, ils ont une caisse de malade mental. Ouais. Martin Fourcade ou je sais pas qui, ceux qui ont une VO2 de déglingo,
eux, le cœur va pas monter.
Eux, le cœur, il va pas monter, tu vois. Eux, il faut qu'ils fassent de la borne, il faut casser des fibres musculaires pour qu'ils apprennent à justement,
c'est musculairement
qu'ils vont souffrir, eux, parce qu'ils ont jamais eu d'impact au sol. Ouais. Il est sur son vélo, musculairement, il était bien. Là, lui mettre des impacts au sol, c'est différent. Donc, quand tu viens d'un sport porté, même un nageur, tu vois, un skieur, un nageur, les gens comme ça, eux, ils ont la caisse. Il faut les faire bosser, musculairement. Faut faire du renfo un peu spécifique course à pied. Il faut faire un peu de plio. Faut leur donner du pied. Il faut qu'ils fassent de la sortie longue pour un peu casser de la fibre musculaire. Et à l'inverse, celui qui avait l'habitude de courir, mais qui faisait des efforts courts et intenses, très répétés, mais pendant 80-90 minutes, mais qui durait 10 secondes, eux, c'est l'inverse. Eux, il faut leur faire la caisse pour que, justement, ils durent dans le temps, quoi.
Donc, ça vous l'a fait, les gars, d'ailleurs. Johan, la première fois où tu as couru 80 minutes, tu t'es dit, j'ai couru un match de rugby. Est-ce que tu as pensé à ça ou pas?
C'était sur le semi, Sur le semi.
Ouais, c'est ça. 1h40, bien sûr.
J'ai essayé de comparer, mais c'était.
Interminable. Ouais. C'est quand la mi-temps?
Non, le semi, sincèrement, c'était pas interminable. Ouais. Je pense que c'est une bonne, pour moi, distance pour moi, parce que le 10 km, ça part trop vite.
Ça te met le couteau sous la gorge, t'es asphyxié au bout de deux bornes.
Dès les deux bornes, tu vois, j'ai fait les 10 km des Champs-Élysées, je me suis fait avoir. Tous partis à fond. Ils sont tous partis à fond. Non, le marathon, je suis monté, j'ai fait le 10, j'ai fait le semi. Et ouais, le 10 km, c'est un peu trop intense pour moi. Et on a fait les Champs-Élysées, ça montait,
ouais,
ça descendait.
Ça montait, ouais, ça descend.
Ouais, c'était un peu compliqué, mais le
semi, c'est entre deux.
Le semi est bien, semi est parfait, c'est pas trop long, une heure trente, je pense que je vais y arriver. Mais sinon, 80 minutes à courir, c'est y a un peu moins d'impact.
Bah c'est ça. C'est ce qui t'a posé problème, Anto, toi aussi au début, c'est le parce que il faut s'habituer mentalement à courir aussi longtemps. Et on l'oublie d'ailleurs quand on sort d'une prépa marathon. Et on a tous une piqûre de rappel quand on commence à refaire les sorties longues, 2h, 2h10 et tout. Anto, c'est ça qui est dur à gérer au début, c'est l'usure mentale de courir 2 heures, quoi. C'est fou au début.
Bah c'est ça. Moi en fait c'est pour ça qu'après le marathon pour tous, j'ai pas voulu couper en fait. J'ai voulu toujours continuer à courir parce que je me suis dit comme ça, je vais garder un peu le rythme.
La qui, ouais.
Essayer de garder une sortie longue par semaine, pas les sorties longues que tu arrives en fin de préparation marathon à 28 ou à 30 ouais. ou à 32, mais essayer sur mes sorties longues de rester aux alentours de 20, 22, 23, tu vois, comme ça. Quand je vais rebasculer sur une prépa marathon, eh ben, j'aurai pas tout ce trou à combler si je fais que des sorties de 10, 12, tu vois. Donc, c'est pour ça que, et là, c'était marrant parce que quand j'ai préparé mon semi, pour le semi de hier, l'année dernière, quand je le préparais, bah, j'avais peur. Quand j'étais sur la ligne de départ, 21 km,
et
c'est
oui,
long, j'ai jamais fait ça. Oui. Et là, maintenant que j'ai fait des marathons, quand je me préparais pour le semi, c'est autre chose. Tu vois, tu n'as plus l'appréhension. Alors que quand tu vas sur un marathon, tu sais que le marathon, c'est.
Oui.
Bah, ça rigole pas.
Oui, que t'en as fait 10 ou 1, t'as peur.
C'est le même effet.
Tu vas souffrir. Tu sais que tu vas souffrir.
La distance, tu la respectes.
Exactement.
Ah ouais, non, là, j'ai bien compris.
Moi, j'ai vu sa tête avant le marathon de Paris il y a quelques jours et il avait peur comme vous. Hein.
Ah ouais, non, bah, c'est que ça reste 42 bornes, hein, que tu les cours en 2h10 ou en 4h, tu sais que tu vas morfler. Hein.
Ah, c'est ça.
Tu morfles autant. Hein, donc,
Ah, tu gagnes quand même 2 heures, quoi.
Ouais,
bah, ça, c'est
tu gagnes 2 heures de sieste.
c'est pas négligeable, mais pour revenir à ce que disait Anthony, c'est que moi, quand j'ai fini le marathon, je voulais pas recourir. J'ai mis un mois et demi avant de remettre des running au pied où c'était terrible. Donc, peut-être j'aurais dû faire comme ça, repartir une petite 5 ou 10, tu vois.
Après, il faut le faire au plaisir. C'est ce que Yoann dit toujours. Mais...
Non, là, j'avais pas de plaisir.
Si t'as pas de plaisir, il faut pas mettre les baskets.
Là, j'avais plus de plaisir. Franchement, et quand j'ai remis les baskets, c'était encore pire. Je me suis dit, allez, fini. Je veux plus entendre parler. J'ai du mal à courir. Hein.
T'es fâché avec la distance du marathon ou non, t'y reviendras?
Non, jamais.
Jamais?
Attention, faut jamais dire jamais.
Pourquoi jamais?
Parce que ça me convient pas, c'est trop long.
Non mais va sur un parcours différent. C'est bah oui.
Ouais, je pense qu'il faut que tu essayes un parcours un peu plus
ludique.
Je pense qu'il faut essayer un parcours.
Bah, il l'a fait Anto, il a fait sa vie. Bah il peut te le dire.
Là, tu vois.
Bah oui.
Ah, je sais pas.
Ouais, franchement, bon, sur Paris, il était horrible pour un premier. Nous, en plus, on découvre la distance, l'effort, il était incroyable.
Ouais.
Et après, maintenant, tu sais ce que c'est, donc tu auras plus la surprise de cette longue distance, mais tu verras que si tu te prépares machin, t'as pas la même souffrance que sur celui du marathon pour tous. Là, c'était horrible.
J'ai oublié que j'ai pas fait de prépa aussi, c'est pour ça.
Qu'est-ce qu'on fait, on lui lance un défi
aussi.
Ah bah, je pense qu'il faut lui lancer un défi.
Tu sais que la plus longue sortie que j'ai fait, c'était 18 km avant le marathon.
Ah bah voilà.
Mais voilà, t'étais mal préparé. Voilà. Regarde, admettons.
Mal, je sais pas si c'était mal, mais j'étais préparé quoi.
Admettons, je te dis, on t'encadre sur une préparation, sur 3 mois de préparation. Le meilleur coach de France à tes côtés, l'homme à la mèche, là, celui qui te regarde, voilà, qui est juste là. Et on t'emmène sur un marathon de fin d'année. Tu signes ou tu signes pas?
Quelle fin d'année?
Bah, Valence, par exemple.
En décembre.
Décembre, Valence.
Cadeau de Noël.
Autoroute à perf. Tout plat. Il n'y a pas un mètre de dénivelé positif. Tu n'auras pas de montée de côte des gardes.
L'avantage de décembre, c'est que derrière, tu récupères et tu t'envoies pour Noël et jour de l'an.
En plus, j'ai pas pensé à ça. Tu signes ou pas? T'es un homme de défi ou pas?
On m'a dit, faut pas prendre décision hâtive.
Alors,
mais on peut réfléchir.
Tu réfléchis alors.
On peut réfléchir. Voilà.
Ok. Bon, c'est plus Valence, facile qu'un tournoi de destination ou.
Mais il faut les tenir quoi. Si c'est pour faire 5-4 heures et quelques comme j'ai fait, c'était long quoi.
Ah non. Si t'as la bannière RMC Running, tu nous respectes par contre. Oui, tu le fais correctement. tu vas pas pour faire 5h30. Hein. Nous, on te ramène pas, sinon tu restes là-bas.
Il y a un moyen. Au 28e, tu coupes, tombes au 36.
J'ai vu que c'était. Ils sont bons les mecs qui coupent aussi là.
Ah bah.
Maintenant, tu peux plus. Parce que t'as des puces sur les dos.
Le principe de faire une course pour couper. Voilà.
Ils sont bons. Hein.
Là, il y en a des génies
aussi.
C'est les
mêmes, C'est les mêmes mecs qui se font rémunérer pour courir sur Strava.
Ouais, exactement. Pour s'envoyer sur Strava. Et juste pour terminer, Yoann, on a parlé des conseils comme ça, ceux qui arrêtent les sportco qui passent au running. Quelles sont les erreurs à éviter? Parce qu'on fait tous des erreurs, notamment quand on se lance comme ça dans
le pied. L'erreur, la première, c'est celle qu'a fait Anthony, c'est-à-dire d'aller trop vite, de pas respecter les béaba de l'entraînement avec l'endurance fondamentale qui doit quand même représenter presque 70% de ton entraînement. Donc ça, c'est quand même la base. Et après, c'est d'être bien équipé. Tu vois, c'est vrai que le running, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y a besoin d'un chrono et une bonne paire de chaussures. Mais l'équipement est super important, surtout quand on n'a pas l'habitude de venir du sport, de la course à pied. Tu vois, tout à l'heure, je prenais l'exemple du vélo, mais effectivement, enfin, quand t'as pas l'habitude des chocs, je peux te dire les périostites. Deux mois après, le mec qui a jamais couru, il a une périostite. Sûr s'il n'est pas bien équipé s'il fait pas bien les choses. Donc effectivement, y aller de façon progressive dans l'entraînement, garder de l'endurance fondamentale, coupler toujours avec votre sport. Tu vois, si tu faisais, je sais pas moi, du vélo ou du ski de fond, tu maintiens ton activité, ce que tu faisais. Et puis voilà, se lancer des défis qui sont atteignables, pas se dire vas-y dans 6 mois je fais moins de 3 heures au marathon, quand t'en as jamais fait, tu vois. C'est vraiment l'erreur à pas faire, parce que souvent quand on voit la course à pied d'un regard, t'as l'impression que c'est un peu facile parce que tout le monde, c'est le sport à la mode, tout le monde fait ça. Tu vois des gens qui ont jamais couru sur les réseaux qui te mettent en avant, dire j'ai fait 3h30 au marathon, mais peut-être que en fait ça fait 2 ans qu'il prépare son affaire, le gars. Donc voilà, pas se comparer aux autres et y aller vraiment de façon progressive. Ouais.
On t'enverra en stage de ski de fond, hein, si tu viens avec nous, comme ça, tu feras une semaine et puis tu seras au top, Yann. Non, je plaisante.
Mais au Pays Basque, il a de quoi s'entraîner, il va se régaler, là.
Ouais, c'est exactement. Anto, toi, t'as basculé, t'es à la recherche de perf, il y a eu ce marathon de Séville. Ça y est, t'es matrixé, ta seule envie, c'est d'y retourner et d'aller battre ton record personnel. Là, je regarde le chrono que t'avais fait, t'avais fait tout juste en dessous des 3h, 2h59.40 au mental. C'était assez fort.
C'était incroyable, parce que quand je pars, j'ai mon, là aussi, pareil, encore une erreur, tu vois, c'est le deuxième marathon, j'apprends.
Enfin, la régularité,
j'ai mon allure. Il faut aux alentours à 4, tu vois, 4, il faut choisir aux alentours des 4-15.
Ouais.
Et je me sentais bien, tu vois, pendant le marathon. Et il y a des moments où je passais avec ma montre en 4-10, tu vois, et je me dis non, ralentis un peu, sois
bon,
bien.
Tu fais de l'avance.
Quand j'arrive et je vois la ligne d'arrivée à 200 mètres et je vois le chrono qui défile, mais je vois 2h59 et 50 secondes, tu vois. Et j'accélère et je passe la ligne en 3h et 7 secondes. Mais c'était le chrono au pistolet, tu vois.
Ouais.
Et
ouais,
moi, je suis parti deuxième vague, mon temps à moi, c'est en dessous. Mais moi, sur ma montre, j'étais pour moi, franchement, en 2,58, j'étais large en dessous de 3 heures, tu vois. Enfin, large. Voilà, une minute ou deux, c'est large quand tu cours 3 heures. Et au final, non, parce que je me suis, en fait, les 4,15 de ma montre, ils correspondaient à, en fait, à du 4,16, 4,17. Il y a toujours cette petite marge de 1 ou 2 secondes.
La montre grimpe
maintenant,
toujours
je le sais. Ouais, il y a ça. Et puis, t'as les distances quand tu dois te déporter à droite, à gauche, doubler les ravitaux, etc. Tu suis pas la ligne. Donc ça, je le saurai pour le prochain. Mais voilà, l'objectif pour le prochain, c'est c'est de me préparer et de faire aux alentours des 2,55, tu vois.
Ça y est. Oh,
2,50, Attends, si.
Non, mais si OLG vient à Valence, tu vas pas faire 2,55.
Reste sur ton chrono, c'est pas de moi.
Non, mais surtout, il faut un chrono ambitieux, 2,50 minimum, coach, là, non?
Non, oui, il a fait une 20 au semi, on va lui montrer par A plus B, par des calculs mathématiques, que 2h50, c'est possible. Mais par contre, non, c'est bien qu'il soit prudent quand même.
Il ne faut pas vouloir aller trop vite.
Ouais, qu'à tout moment, tu prennes une crampe. J'ai vu des mecs à Séville qui étaient bien, au 41e qui crampent et qui tombent par terre. C'est pour ça que je te dis, c'est jamais fini. Tant que tu n'as pas passé la ligne, c'est jamais fini.
Le 27 avril, prédire un chrono au 3 décembre, bon, on va attendre le 20 novembre pour et l'entraînement, voir ce que tu as foutu pour dire ce que tu vois.
Tu veux dire qu'on teste Yohann Huger sur le 24 Paris et puis après
il y a la saison estivale, vous oubliez quand même.
Oh, surtout à Bayonne. Tu vas aller à Bayonne?
Non.
Il y a les fêtes de Bayonne. Là-bas, à Mykonos, il a je ne sais combien de soirées qui vont l'attendre.
Les soirées blanches de Grèce, on connaît. Voilà. C'est ça.
Celles-ci, elles sont dangereuses.
Ouais, non, c'est ça. Il faut se méfier de l'été. Ouais. C'est vrai. Exactement. On a passé un super moment avec vous. Merci à tous les deux. Franchement, c'était un régal. Merci Anthony Mounier. Merci Johan Huger. Merci Maître Yodu.
Merci à tous.
C'est régalé quand même. Hein.
Ah ouais.
Ah là, c'est
des beaux profils. Voilà. Je sens que Johan, en plus, il a pas dit non.
Ouais. Il se dit dans quel bourbier.
Il veut du travail. Il veut du travail. Il en a pas assez.
Exactement. C'est, bah, c'est un beau défi. Hein.
Non, c'est très beau.
Et t'emmener sous les 3 heures au marathon, c'est un beau défi. Non, mais une 40 au SMI, oh. Il y a un objectif ambitieux quand même, non?
À 3:30, hein?
3:30, 12 à l'heure.
Ah si?
Vous m'allumez là, vous.
Non, non, c'est. Je pense c'est que c'est. Pas...
Je fais 96 kilos.
Il descend, ça descend, ouais. Valence, du début à la fin.
Ça descend. Voilà. On va pas lui vendre non plus un truc. Ouais,
non, c'est quand sûr. Tu dis bah, ça va être facile, c'est séance, tu dis ouais, celle-là elle est facile cette séance.
Exactement.
C'est jamais facile.
Bon, 3:35. 36.
Ouais, voilà, 3:36.
Bon, ça va. Allez, merci à tous les deux, on s'est régalé avec vous. Un grand merci au Maître Yodu, quel plaisir quand elle est là en studio. Et ouais, ça change tout. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.